Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International, dans ce rendez-vous encore hebdomadaire. Nous sommes encore chez nous, mais sachez-le, dès lundi, petit changement pour Radio Foot et ses auditeurs, nous serons là le lundi et le vendredi, donc deux fois par semaine, car le foot est en train de reprendre un petit peu partout. Un autre changement important, et là il faudra vous y habituer, nous changeons d'heure, ce sera désormais à 16h10 en temps universel et non plus à 15h10. Pour ce qui est de la rediffusion, elle restera à 21h10 en temps universel. Aujourd'hui, nous sommes là donc, comme chaque semaine, par le son et par l'image, ainsi que eh bien, sur la chaîne Facebook, vous pouvez nous regarder, et sur la chaîne YouTube de RFI, vous pouvez nous suivre ensuite. L'émission du jour avec eh bien, nos stars du vendredi, Xavier Barré et Rémi Ngono, qui sont là tous les deux. Bonjour messieurs.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour Annie, bonjour à tous les auditeurs et un salut particulier à toutes les téléspectatrices qui, je crois très bien, vont m'envoyer les demandes d'amitié inbox.
Ah, elles vont aimer votre look veste en cuir, j'imagine, cher Rémi. Bonjour Alejandro Valente, cher
Rémi. Bonjour Annie et bonjour à tous.
Tout va bien ?
Tout va bien.
Philippe Doucet nous rejoindra dans le cours de cette émission. Et puis, il y a tous ceux qui ne sont pas là, que vous ne voyez pas, mais qui sont fidèles au poste. David Finzel et Pierre Guérin pour m'aider à la préparation de l'émission. Et puis, Laurent Salerno et Swell Kedir, nos réalisateurs audio et vidéo. Alors, dans les débats du jour, les amis, je vous propose d'abord la FIFA tolérante envers des gestes à caractère politique sur les terrains de foot. Est-ce surprenant de l'avoir prôné le bon sens ? Est-ce un gros coup de com' ou la porte ouverte aussi à un engrenage dommage sur les terrains ? Bref, changement ou simple cas isolé, nous en parlerons. Deux buteurs qui restent en Ligue 1, l'Argentin Mauro Icardi et le Camerounais Karl Toko Ekambi continueront à jouer la saison prochaine pour le PSG. Et pour l'OL, leurs prêts ont été transformés en achats, bon coup, bonne formule que ces prêts, surtout en ces temps post-confinement, nous en parlerons aussi. Et puis, le football revient partout en Europe, au Portugal, en Espagne, en Première Ligue d'Angleterre et en Italie. Un air de reprise qui flotte sur le foot européen. Il y aura nos cartons, un peu de musique et nous continuons. Radio Foot, c'est parti.
Pour son 15e but de la saison. Et là aussi un hommage appuyé à destination des États-Unis et de la situation qui s'y passe suite au décès de George Floyd. On avait déjà vu Weston McKennie avec Schalke 04 hier face au Werder Bremen. On a vu la réaction de Marcus Thuram. Maintenant c'est Jadon Sancho sur ce break du Borussia Dortmund. Ah, Achraf Hakimi, lui aussi, geste symbolique. My people don't want no trouble. We've had
enough jungle. Sur un brassard, sur un t-shirt, sous leur maillot ou en posant un genou à terre, les gestes des footballeurs qui évoluent en Allemagne, rendant hommage à l'afro-américain George Floyd tué à Minneapolis par un policier, n'ont échappé à personne. Elles ont même ému, comme celle de Marcus Thuram, hein, du Mönchengladbach, célébrant son but tête basse et genou à terre. Mais ces gestes politiques sont passibles de sanctions, si on s'en tient du moins aux règles de l'International Board et donc les règles édictées par la FIFA. Moins peut-être, on y viendra, celui de Marcos Thuram, mais en tout cas, Sancho et ses camarades peuvent être punis. La commission d'éthique de la Fédération allemande l'a d'ailleurs reconnu, elle doit se saisir du cas. Et pourtant, le président de cette même fédération s'est déclaré fier des joueurs qui ont manifesté leur compassion. Et la FIFA, par la bouche de Gianni Infantino, a cette semaine appelé au bon sens, à des applaudissements au lieu des sanctions, alors qu'on a déjà vu des joueurs hein, sanctionnés, et même sanctionnés, c'était plus grave, lorsqu'ils étaient insultés par des cris qu'ils ne supportaient plus et des injures racistes contre eux. Est-ce que c'est un coup de com' de la FIFA, Alejandro Valente ?
Je pense que c'est plutôt le constat qu'il aurait été difficile à la FIFA aujourd'hui de s'opposer à ces genres de manifestations. La FIFA a une politique qui est habituellement très claire, qui est d'éviter que les terrains de football deviennent une tribune politique. Il y a un petit peu un côté gênant dans cette acceptation, mais d'un autre côté, l'émotion était telle et la sincérité, je pense, de beaucoup de ses hommages l'était également. Il était difficile dans les contextes actuels où le football est fragilisé quand même par cette épidémie, d'ajouter encore un motif de polémique alors que les compétitions reprennent difficilement. Donc je pense que la FIFA a fait le bon choix et que la fédération allemande a suivi ses recommandations en se montrant tout à fait modérée et donc en évitant de prononcer des sanctions. Cela dit, il faudra voir si tout cela ne se traduit pas à l'avenir par une multitude de manifestations de toutes sortes qu'il sera beaucoup plus difficile d'encadrer du moment qu'on a ouvert cette porte.
Rémi Ngonon, est-ce que c'est aussi le fait que ça vienne des États-Unis qui est ce prisme et toutes ces manifestations aux États-Unis avec des échos en Europe, voire ailleurs, qui fait que la FIFA est devenue un petit peu plus compréhensive ou tolérante?
Justement, vous avez déjà répondu à la question avant de me la poser même. Parce que vous vous rendez compte, c'est comme si le monde entier découvrait qu'il y a des violences policières contre des Noirs, et d'autant plus que on en voit presque chaque fois ici, mais il n'y a pas eu cela. Et en même temps, ça me permet aujourd'hui de stratifier qu'il y a deux catégories de Noirs également. Les Noirs américains, ça indigne beaucoup plus que les Noirs directement africains qui peuvent être ailleurs. Parce que lorsqu'on essaie de regarder cela, ça indigne et ça indigne tout le monde. Oui, les violences policières sur les Noirs. Sauf que George Floyd n'était pas un footballeur, même si aujourd'hui, la polémique se ramène dans les stades de football, mais on a déjà vu des footballeurs qui ont subi des sévices, d'autres qui ont même été tués, mais je n'ai pas vu la FIFA. Je vous prends par exemple, ce n'est pas seulement un racisme des Blancs contre les Noirs, mais je peux même encore vous prendre dans le continent africain. C'est-à-dire que vous avez Albert Ebossé qui se fait sauvagement assassiner. Justement, en Afrique, il est un joueur des JS Kabylie. Ça se passe en pleine Algérie, en 2014. Est-ce que les footballeurs se sont levés pour crier à l'indignation? Est-ce que le monde entier s'est
levé pour crier à l'indignation? Il avait reçu des pierres dans le tunnel en sortant du stade.
Voilà, pour vous rendre compte, il a été abattu comme un animal. La FIFA, qu'a-t-elle fait? Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est même pas dans le monde du football, la FIFA, le monde entier s'élève. Alors, à partir de cet instant, je me trouve dans l'obligation, moi en tant que Noir africain, de me poser des questions. Qu'est-ce que nous valons réellement lorsque je sais qu'en même temps, le problème d'Adama Traoré, dans les mêmes conditions, en France, lui aussi qui a été asphyxié, lui aussi qui a été étranglé par les gendarmes français, je n'ai pas vu l'indignation à travers le monde entier. Donc, à partir de cet instant, j'ai dit, je ne peux pas accepter ce deux poids, deux mesures. Lorsqu'il s'agit des Américains, c'est toujours les plus forts. Tout le monde court vers eux. Lorsque c'est des petits Africains, eh bien, c'est quelques petits sauvageons incultes qui sont dans une brousse, ça ne peut pas prendre. Et c'est la même chose avec les dirigeants africains.
Je ne veux pas tout mélanger, Rémi.
Les dirigeants africains s'indignent quand ça vient des États-Unis. Ils s'indignent quand ça vient d'une grande puissance. Mais ils ne s'indignent pas lorsqu'il s'agit des ressortissants africains eux-mêmes.
Bon, on n'a pas beaucoup entendu leur indignation, d'ailleurs, comme Rémi. On a entendu l'indignation de gens individuellement, voire de l'Union africaine, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus trop entendu les Africains sur ce thème. Xavier Barret, qu'est-ce que vous en pensez de cette peut-être autorisation, disons, parce que après on peut se dire il y a d'autres causes qui sont aussi justes que celle de George Floyd ou par exemple de Ebossé dont parlait Rémi et dont finalement on va devoir tolérer des messages contre le massacre des Tutsis ou quoi. Est-ce que c'est aussi un peu la boîte de Pandore alors que la FIFA a toujours fait attention de séparer sport et politique?
C'est exactement ce à quoi j'ai pensé quand vous avez envoyé le sujet hier. J'ai dit, oulala, quel sujet touchy. Donc, il convient d'être extrêmement pédagogue. Parce que moi, je me souviens quand la FIFA a pris cette décision dans les années 90 d'interdire toute manifestation sur le terrain qui pouvait être interprétée d'une autre façon. Et un des dirigeants de la FIFA m'expliquait qu'il était allé en Amérique du Sud au championnat junior. Je ne sais plus si c'était les 17 ans ou les 19 ans. Et il y avait les Paraguayens des jeunes Paraguayens qui pour fêter un but s'étaient alignés et avaient enlevé leur maillot et il y avait marqué dessus Jésus, voilà, ou j'aime Jésus, enfin je sais plus exactement la phrase. Ça remonte à quelques années.
D'un certain Neymar avec sa bande Jésus 100% à une finale de Ligue des Champions.
Et c'est le genre de choses, il me disait, tu comprends, nous, la FIFA, on ne peut pas accepter ce genre de choses, que ce soit un message religieux, que ce soit un message politique ou que ce soit un message commercial. Imaginez effectivement que les joueurs enlèvent leur maillot avec des t-shirts Pepsi-Cola parce qu'ils étaient sponsorisés par Pepsi, alors que la FIFA a un accord avec Coca-Cola. Donc, du coup, la FIFA a pris la décision de tout interdire. Pas de manifestation, quelle qu'elle soit, politique, oui, religieuse, commerciale, hors, dans le cadre du terrain. En dehors, les joueurs sont libres de leur...
Oui,
de leur,
d'ailleurs, vous parlez, Xavier, en dehors du terrain, on peut signaler cette magnifique photo qui était très parlante de l'équipe de Liverpool, tous un genou à terre autour du rond central. Mais c'est vrai que cette photo, elle a été prise à l'entraînement. Donc, ça n'a rien à voir, même si elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et qu'elle a de l'impact, mais ça n'a rien à voir avec un match officiel.
Absolument. Donc là, en dehors du terrain, effectivement, les joueurs sont libres de manifester leurs opinions, leur prise de position. Et c'est très bien qu'ils en aient, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans le cadre du jeu, la FIFA, jusqu'à présent, voulait que le produit soit parfait. Et là, c'est un peu inhabituel ce qui vient de se dire et de se dire par la bouche de Gianni Infantino, son président. Alors, est-ce qu'il a des choses à se faire pardonner vis-à-vis de certaines populations? Je ne sais pas. Moi, je crains effectivement qu'il ouvre la boîte de Pandore. La cause est juste, mais à partir de ce moment-là, on va dire oui, mais pour George Floyd, c'est bon. Et comme le disait Rémy Gonod très justement, pourquoi pas pour Ebossé, pourquoi pas pour machin, et pourquoi pas pour un tel, et pourquoi pas pour un tel? À ce moment-là, on ne s'en sort plus. Il faut voir quelles vont être les suites. Je pense que dans ces cas-là, les institutions ont intérêt effectivement à organiser elles-mêmes l'hommage. C'est pas sans risque d'ailleurs. On l'avait vu notamment quand il y a eu les attentats djihadistes en France. La Marseillaise avait été jouée sur beaucoup de terrains dans le monde en hommage à Paris Ville Martyr. Et puis on sait qu'elle avait été sifflée notamment en Turquie ou en Arabie Saoudite. Donc vous voyez, quand on se lance dans ce genre d'hommage à des victimes, c'est pas sans risque. Donc je pense que l'intérêt des institutions pour cadrer l'hommage, le combat qui est légitime, c'est de le limiter dans le temps. Peut-être, alors la période n'y s'y prête pas parce qu'effectivement, ça ne joue pas partout, mais il faut, je pense, limiter l'hommage à George Floyd à quelques jours, quelques semaines, parce que sinon, après, on va rentrer dans un enchaînement qui risque d'être difficile à contrôler.
Juste une petite question que j'ai réservée pour vous, Alejandro Valente. Gianni Infantino, est-ce qu'il a changé? Parce que, par exemple, sur cette, là, il y a une prise de position assez claire. On se souvient... Enfin, nous, on s'en souvient, peut-être que lui, il s'en souvient déjà plus, mais pendant le confinement, il avait eu cette phrase où il promettait, où il disait en tout cas que ça serait intéressant d'alléger les calendriers des joueurs, alors qu'on sait qu'il avait plutôt une tendance à faire le contraire. Est-ce qu'il y a un changement de la part du dirigeant de la FIFA ou c'est juste il s'adapte au moment?
Mais je pense que tout le monde essaye de s'adapter un peu aux circonstances très particulières qu'on est en train de vivre. Le fait que les calendriers sont trop chargés en ce moment, alors que le retour du football se fait difficilement et que tout le monde se pose des questions sur des compétitions à venir, c'est évident qu'il faut y réfléchir et qu'il faut essayer d'éviter toute dérive. Dans ce cas d'hommage à Floyd, évidemment, c'est aussi quelque chose des circonstances. La FIFA, comme le disait Xavier, n'a aucun intérêt à faire des terrains de football un théâtre où la surenchère et la compétition dans les hommages risquent de nuire à l'image du sport. Donc, mais aujourd'hui, la situation est telle et le football est si fragilisé de cette épidémie, qui n'est d'ailleurs pas terminée encore, que la FIFA essaye d'éviter les motifs ou les sujets des discordes. Oui. Essaye d'avoir un discours plutôt mobilisateur et plutôt positif.
Xavier Barré, j'aurais voulu que vous me détailliez justement pourquoi, dans ce cas des hommages, le geste est si fort de Thuram échappait d'une certaine façon à la commission, même si apparemment il n'y aura aucune sanction.
Parce que la façon qu'il l'utilise pour fêter ce but n'entrave aucun règlement. Il reste sur le terrain, il n'enlève pas son maillot, il n'y a pas d'insulte, il y a juste un hommage. Donc je ne vois pas en quoi il pourrait être sanctionné pour ça. Donc c'est d'ailleurs entre guillemets l'intelligence de cet hommage, c'est que on le fait avec une forme de alors il y a la systématisation, mais il y a surtout se mettre ce genou à terre. Ça a d'ailleurs déjà été utilisé aux États-Unis par d'autres champions dans d'autres disciplines, notamment dans le football américain. Donc
Mais c'était en écho justement aux joueurs américains de football américain, on le sait. Oui, oui, non, mais c'était juste la distinction, effectivement. Et ce qu'on peut se dire pour terminer, c'est que Marcus Thuram est le digne fils de son papa, qui, on le sait, a une fondation et qui s'attaque au racisme. Allez, on va sur le terrain, on descend sur le terrain de la Ligue 1, même si le ballon ne roule plus trop.
L'Argentin, le goléador si efficace devant le but. Un coup de patte suffit pour Vermouche.
Finisseur en chef, Mauro Icardi.
Le Paris Saint-Germain aurait difficilement pu payer moins cher. Il y a un an, l'attaquant argentin était évalué à plus de 80 millions d'euros.
Pas de match en championnat de France où on prépare la saison prochaine. Déjà, les clubs annoncent en ce moment les retours au centre d'entraînement. Par exemple, pour l'OM, ce sera à partir du 26 juin à la Commanderie. Pour le PSG, ce devrait être le 22 juin au Camp des Loges, avec dans les rangs Mauro Icardi. Grâce, on peut dire, à Leonardo, hein, le directeur de ce club, et puis aussi grâce à Vanda, Madame Icardi, qui a négocié avec le Paris Saint-Germain. L'Argentin, prêté par l'Inter Milan la saison dernière, on peut se dire qu'on l'a remarqué, il a flambé, 20 buts en 31 matchs, le contrat court jusqu'en 2024. Alors on pensait d'abord au départ, hein, Xavier Barré, que ça allait être un aller-retour entre l'Inter et le Paris Saint-Germain. Icardi était un peu mal avec les supporters, avec l'Inter et tout, on pensait qu'il voulait se mettre à l'ombre un an, et finalement l'histoire dure. C'est une surprise ?
Pas tout à fait, pas tout à fait, parce que quand il est arrivé, on se doutait bien que Leonardo avait une idée derrière la tête, c'était de le faire venir ensuite à Paris de manière définitive au terme de son prêt. Et il a eu un automne absolument flamboyant et tout effectivement concordait dans ce sens. Et puis c'est vrai que le printemps a été moins performant de la part d'Icardi et surtout Cavani qui était blessé est revenu et Cavani est adulé par le public du Parc des Princes. Maintenant, il y a 6 ans d'écart entre les deux. Donc, s'il faut faire un investissement, s'il faut faire un choix entre Cavani et Icardi, eh bien, la logique veut que ce soit Icardi. Les négociations avec l'Inter de Milan n'ont pas été faciles. Bien sûr, l'Inter voulait obtenir le meilleur prix, le plus d'argent. Le PSG voulait le payer le moins cher possible. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces, je pense, savamment entretenu par le Paris Saint-Germain, toutes ces rumeurs d'éventuellement faire prolonger Cavani pour un an ou deux de façon à forcer l'Inter à accepter l'offre du PSG. Moi, je pense que c'est un bon choix de la part de Paris, parce qu'on a toujours intérêt à prendre un joueur qui connaît déjà la ville, qui connaît déjà le club, qui connaît déjà un certain nombre de ses coéquipiers pour qu'il soit plus performant tout de suite.
Alejandro, quel est l'intérêt pour Icardi qui avait choisi un peu par défaut le Paris Saint-Germain ? C'est parce qu'il s'est bien relancé ou c'est
Je pense qu'il y a d'abord un intérêt financier évident puisqu'il aura un salaire de 10 millions net par an, donc bien plus que ce qu'il touchait à l'Inter. Et probablement, il aurait eu du mal à trouver des telles conditions ailleurs. Il a trouvé un certain bonheur, disons, dans l'équipe parisienne. Il y a beaucoup de.
Il n'y a que des latino-américains.
Pas mal de compatriotes, pas mal de sud-américains. Il se sent apprécié, il se sent en tout cas souhaité. Déjà, lorsque le joueur avait été prêté, on se disait que Paris avait fait une bonne opération, parce que même à 70 millions d'euros, ça paraissait un prix modéré par rapport à ce qui circule pour des joueurs comparables. Et aujourd'hui, en plus, Paris a réussi à améliorer les conditions et à baisser le prix grâce au souhait de l'Inter de vouloir éviter à tout prix que les joueurs aillent renforcer une autre équipe italienne. On pense évidemment à la Juventus. Donc, les conditions étaient réunies pour que Paris fasse une très bonne affaire. Et c'est le cas. Paris est content, Icardi est content, l'Inter est content. Tout le monde est content dans cette histoire.
Vanda aussi, apparemment. Rémi Ngono, est-ce que ce numéro 9 de 27 ans, ce pur buteur, va pousser le chouchou Cavani hors du club après l'avoir mis longtemps sur le banc? Et surtout, est-ce qu'il va remplacer dans le cœur des supporters parisiens, selon vous?
C'est ça la tristesse dans l'histoire. C'est comme à peu près, je suis avec mon épouse et qui m'aime. Et généralement, elle est dévouée. Je ne lui fais aucun cadeau. Et mon épouse reste toujours là. Et subitement, je trouve une belle dulcinée à qui j'offre tous les cadeaux et qui d'ailleurs ne veut pas de moi. Je la flatte et je suis tellement très content de la voir, de telle sorte que je mets pratiquement mon épouse dans la poubelle. Est-ce que vous trouvez cela normal? J'ai dit
non. Non, parce que vous n'avez pas le droit d'avoir deux femmes en même temps en France.
Ah ben, voilà l'histoire. Voilà l'histoire. C'est que Cavani est comme l'épouse du Paris Saint-Germain, qui n'a jamais abandonné le Paris Saint-Germain, qui n'a jamais boudé un seul instant, qui a été exemplaire, qui boulotte, qui fait le travail défensif, le travail
offensif. Rémi, il vieillit, Cavani.
Mais attendez,
c'est pas un mariage entre les joueurs et les clubs, c'est des contrats qui arrivent à terme.
Laissez-moi parler. Vous vous rendez donc compte que Icardi, sa femme a dit qu'elle ne venait même pas à Paris parce qu'elle trouvait Paris comme étant le deuxième, voire le troisième, le quatrième bureau qui ne l'intéressait pas. Ce n'était qu'une petite passe et puis c'est parti. Maintenant, il y a une belle offre, c'est-à-dire de l'argent, à peu près comme justement les femmes carriéristes, matérialistes, qui viennent auprès de vous, non pas parce qu'elles vous aiment, mais parce qu'elles aiment votre pognon. Voilà l'histoire de Paris avec Icardi. Voilà l'histoire de l'ingratitude envers un type qu'on appelle Cavani, qui était bel et bien performant, qui faisait tout et tout, qui n'en a pas bénéficié. Aujourd'hui, quand vous me demandez, est-ce que, bien évidemment, Cavani va partir? Non seulement Paris ne lui a pas demandé d'aller rebondir ailleurs, comme justement quand vous répudiez une femme. Vous dites, allez, vous allez peut-être avoir quelqu'un d'autre qui sera séduit par vos talents.
Non, mais il a enfin un contrat, Cavani. Ça fait 4 minutes qu'on t'écoute, là.
Même s'il est sous contrat, j'ai dit aujourd'hui, lorsque vous regardez l'histoire de Cavani avec Paris,
faire un choix.
Exactement, lorsqu'on regarde entre Cavani et Icardi qui arrive et qui récolte tout aujourd'hui, et il y a un proverbe africain qui dit, l'esclave sème et c'est le maître qui récolte. Icardi est le maître et Cavani est l'esclave.
Faut arrêter un peu parce que c'est des esclaves grassement payés. Non, mais il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la façon dont Rémy Ngono se contredit en permanence. Il y a quelques mois, sur ce même plateau, dans cette même émission, il disait que le Barça avait fait une erreur en gardant le vieux Messi face à Neymar, en laissant partir Neymar. Et aujourd'hui, il nous dit que le PSG fait une erreur parce qu'il n'a pas gardé le vieux Cavani et qu'il a pris le jeune Icardi. Donc, il faut être un peu cohérent, monsieur Ngono.
Vous prenez Messi pour Icardi. Bravo.
Non, Icardi. Je parle de l'âge des joueurs. Mais bon, parfois, on peut se tromper.
Il faut confiner Rémi, parce que là, ça ne va pas du tout, Rémi. Hein. Il faut vraiment que vous preniez l'air.
Je vais vous rendre ça.
En tout cas, le recrutement est donc celui de Mauro Icardi. Et on verra si Cavani arrive à rester ou pas. Il y a un autre joueur, et c'est à Lyon, qui lui vient d'être recruté.
Oh, le bon ballon, il n'y a pas de position de hors-jeu. Le ballon écarté pour Kartoko et Kambi. Le but pour l'instant est validé. Kartoko et Kambi, buteur.
À Lyon, effectivement, KTE, comme on peut le surnommer, Kartoko et Kambi, arrivé pour remplacer les blessés d'alors, Depay et Reine Adélaïde, a finalement lui aussi signé un contrat de 4 ans avec le club. Il a 27 ans. Rappelez-vous, il avait été pris Marc Vivien Fauré en 2018. Bon, il a joué 12 matchs, il n'a marqué que 2 buts, plus une passe décisive. Est-ce que c'est un super sub pour Lyon, le Camerounais, Kartoko et Kambi, Rémy Ngono?
Lyon ne peut pas avoir mieux. Parce qu'il faut se dire aujourd'hui que même si Jean-Michel Aulas se bat, et Lyon est assuré de ne pas avoir la Ligue des Champions. Et alors, Lyon ne peut pas être attractif. Et
ils ont peut-être la Ligue Europa.
Voilà, la Ligue Europa, le Stade des Lumières, qui a coûté presque 395 millions d'euros, et donc 100 millions venant quand même d'un prêt, ce n'était pas pour la Ligue Europa, mais pour la Ligue des Champions que Lyon devait remporter. Maintenant, Lyon ne va même plus y participer. Quand Karl Kartoko et Kambi arrivent là, on sait très bien que Lyon n'a pas de capacité aujourd'hui encore que quand Lyon participait à la Ligue des Champions, c'est-à-dire que vous regardez entre 2003 et 2011, et il y avait quand même, Lyon avait gagné 168 millions d'euros, mais Lyon avait quand même eu à chaque saison des déficits de 24 millions d'euros. Avoir Karl Kartoko et Kambi, qui de surcroît a quand même cette couronne de RFI. Ah mais attendez, rien que pour ça, Lyon a fait la meilleure affaire d'avoir le meilleur joueur africain désigné par RFI. Voilà, c'est Lyon qui gagne.
Est-ce que Lyon gagne, Alejandro et Xavier? Alejandro.
Je pense que Lyon, en tout cas, essaye de s'adapter à la nouvelle économie du football français, une économie qui est évidemment affaiblie par les mauvais choix, à mon avis, qui ont été pris concernant la reprise ou pas des championnats. Donc, les clubs français n'ont pas aujourd'hui les moyens de se battre sur les mercatos internationaux où les clubs des pays voisins seront mieux armés, mieux équipés. Donc, il essaye de sauvegarder ce qui peut l'être, d'anticiper des probables départs. On pense à Depay, on pense à Aouar. Et donc, il va falloir évidemment avoir des joueurs comme Toko Ekambi, qui n'est pas comparable, à mon avis, à un joueur comme Depay. Mais dans le contexte actuel, c'est quand même une opération intéressante pour
Lyon. Xavier, est-ce qu'on peut se dire peut-être que ces formules, prêt, on reste et on prolonge le contrat, c'est intéressant et peut-être plus encore en ce moment de post-confinement et donc de cet arrêt qui a appauvri un peu le football?
Alors, c'est pas sans risque, hein, parce qu'on le voit dans certains pays, notamment en Espagne, où il y a des joueurs prêtés jusqu'au 30 juin. Et donc, il faut prolonger le prêt, mais dans quelles conditions, à quel prix, enfin bon. Et dans les cas qu'on vient d'évoquer, que ce soit Icardi ou que ce soit maintenant Toko Ekambi, c'est plutôt une bonne idée. Il y a toujours cette incertitude quand vous recrutez quelqu'un, c'est comment va-t-il s'adapter. Et finalement, le prêt, vous le prenez. Si ça marche pas, vous le renvoyez dans le club d'où il vient. Et si ça marche, vous le gardez. Alors après, bien sûr, il y a une négociation sur le prix. Bon, il n'y a rien à voir entre le prix d'Icardi qu'on a évoqué tout à l'heure et celui de Toko Ekambi. C'est 11,5 millions à payer tout de suite à Villarreal et puis 4 millions de bonus selon différentes modalités. Vu où en est Lyon aujourd'hui, comme disait El Jefe, c'est la bonne pioche parce qu'ils vont devoir vendre de toute façon pour équilibrer les comptes. Donc, ils risquent de perdre Memphis Depay, peut-être Moussa Dembélé, peut-être également Oussem Aouar. Ils ont besoin de joueurs et Karl Toko Ekambi s'est bien acclimaté à Lyon. Il a pas beaucoup marqué, effectivement, mais il n'a pas beaucoup joué non plus, puisque la saison a été arrêtée, la demi-saison qu'il accomplissait a été arrêtée dès la mi-mars. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne pioche de la part de l'OL.
Bonne opération. Bon, ben voilà, un retour. Hein, il était à Angers, on le rappelle, au SCO. Il est parti à Villarreal. Il revient et le championnat de France devrait reprendre officiellement le 23 août prochain. Mais ailleurs, ça reprend et on en parle tout de suite. Dans cette partie de l'émission, nous accueillons un nouveau venu aujourd'hui dans nos débats et c'est Philippe Doucet, notre ami de Canal+. Bonjour Monsieur Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Vous allez bien Philippe?
Mais oui, parfaitement bien.
Est-ce que vous décolérez de temps en temps? Parce que si nos auditeurs internautes vous regardent sur nos vidéos que vous nous postez sur la page Facebook de l'émission, on se dit que c'est un homme en colère, Philippe Doucet, en ce moment.
Je n'aime pas qu'on attaque la Ligue 1, qui est un championnat qui n'est pas naturellement parmi les grands et qui a beaucoup bossé pour arriver à un niveau à peu près correct, un niveau européen à peu près correct, et le mettre en danger comme ça pour des erreurs. C'est des erreurs de méthode. C'est ça. Ce qui m'exaspère, c'est l'illogisme. C'est-à-dire, la logique, c'était évidemment d'attendre. Or, d'attendre, de voir. Et puis, s'il fallait ne pas reprendre, on ne reprenait pas. Mais au moins, attendre de voir et avoir la latitude, au moins, de regarder ce que font nos voisins, qui ne sont pas plus bêtes que nous. On n'est pas plus intelligents que le monde. On n'est pas en position de donner des leçons politiques, morales ou autres. Je pense qu'on avait toutes les raisons d'attendre, de voir. Et puis, on aurait pris la décision en connaissance de cause, et je constate que malheureusement, toutes les craintes qu'on avait depuis le fameux 28 avril se réalisent, c'est-à-dire c'est le pire des scénarios, entre guillemets, sur le plan humain, c'est le meilleur des scénarios puisque le football reprend un peu partout, et sur le plan de français, par contre, c'est le pire des scénarios, c'est-à-dire qu'on va être les seuls à ne pas reprendre.
Oui, et d'ailleurs, on persiste et on signe apparemment puisque la ministre et tout le monde dit qu'il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, les dates ailleurs en Europe sont connues. Les matchs vont reprendre dans les grands championnats européens, les autres, pas nous, après 3 mois d'arrêt. Alors, on a eu la Bundesliga qui a commencé il y a quelques semaines. La D1 portugaise commence ce week-end. Ça a commencé mercredi d'ailleurs. Viendra la Liga Española le 11 juin avec un fameux derby sévillan FC Séville-Bétis. La Première Ligue le 17 juin et l'Italie le 20 juin. Alors, messieurs les Anglais, ne tirez pas les premiers, puisque vous ne jouerez pas les premiers, mais on va commencer quand même par l'Angleterre et son fameux championnat, la première ligue si populaire dans le monde. Un pays qui compte en Europe le plus de victimes, hein, Philippe, 39 700 victimes de ce Covid, de ce coronavirus. Certains matchs, d'ailleurs, on le découvre dans la presse anglaise ces temps-ci, auraient d'ailleurs malheureusement provoqué des décès directement avec les mélanges de supporters. Malgré tout, ça va reprendre. Les Anglais n'auront finalement dans les jambes, les joueurs, que 3 semaines d'entraînement. Est-ce que l'intensité, la fameuse intensité de la Première Ligue va en pâtir, Philippe ?
On a l'exemple de l'Allemagne où ça a commencé un peu mou du genou, il faut être honnête. Les 2 premières journées étaient des vraies 2 premières journées, c'est-à-dire un petit peu comme en début de championnat, comme on y est habitué en été. Et puis là, je continue de regarder la Bundesliga, je ne sais pas vous, mais moi je continue de regarder. Et très honnêtement, depuis le 3e match, je trouve qu'on a du vrai football avec des joueurs qui sont maintenant à l'aise, qui retrouvent toutes leurs habitudes à la fois physiques mais aussi techniques, parce que ce qu'on peut redouter, évidemment, dans ces cas-là, c'est que si le physique n'est pas au rendez-vous, la technique en souffre et l'ensemble du niveau en souffre. Or, la Bundesliga a montré l'exemple. En deux, trois journées, tout était rentré dans l'ordre et on voit maintenant du bon football, à la nuance, évidemment, près, très importante, qu'il n'y a pas de public dans le stade et que c'est évidemment pas pareil. Ça, on en convient.
Dans cette journée qui sera donc jouée en Angleterre à la mi-juin, on aura notamment un derby de la Mersey, comme on dit, c'est-à-dire le derby entre les 2 clubs de Liverpool, les Reds, et Everton. Philippe, et je vous poserai la question à chacun, bien sûr, est-ce qu'on peut imaginer qu'avec 25 points d'avance, Liverpool perdrait cette année ce fameux titre qu'elle attend depuis si longtemps ?
C'est vrai que quelque part, c'est un nouveau championnat qui commence, c'est-à-dire… On est tellement loin de la dernière journée qu'on pourrait imaginer que des équipes ne retrouvent pas le même rythme qu'avant. Mais de là à perdre 25 points d'avance, là, franchement, ça supposerait que Liverpool ne gagne plus un match d'ici la fin de championnat. C'est évidemment totalement fantaisiste. Liverpool sera sacré dans 1-2 journées, comme il le mérite. Du reste, je n'ai jamais même compris le fameux débat réglementaire. Est-ce qu'il serait titré si le championnat s'arrêtait ? Franchement, ça aurait été absurde. Tout le monde aurait eu en tête de toute façon que Liverpool avait été le club de cette année de Première Ligue, tout naturellement.
Xavier, on se souvient, l'année dernière, ils avaient quand même eu jusqu'à 8 points d'avance, hein, et ça s'était mal terminé, 1 point derrière Manchester City. Mais peut-être que là aussi, cet arrêt, alors involontaire, Jürgen Klopp a dit, c'est la première fois qu'on s'arrête aussi longtemps depuis que nous tous, on est footballeurs. Mais malgré tout, est-ce que ça peut servir les effectifs, et notamment le sien? On se souvient qu'ils étaient un peu fatigués, les Reds, juste avant la pause forcée.
Oui, parce qu'ils avaient été éliminés de la Ligue des Champions par l'Atlético, en s'inclinant d'ailleurs à Anfield. Effectivement, il y avait en Ligue des Champions, il y avait une accumulation des événements qui fait que les Reds avaient peut-être un petit peu de mal à tenir la distance. Donc là, ils ont pu recharger les accus largement. Moi, je ne les vois pas laisser filer ce titre avec non seulement 25 points d'avance, mais en plus, en s'étant refait la santé comme ça a été le cas pendant toute cette période de coupure. Et puis, on sent que les joueurs qui pouvaient être un peu saturés à la sortie de l'hiver, là, ils ont vraiment envie de jouer. Il y a eu ces enquêtes réalisées par le syndicat des joueurs auprès d'un certain nombre de joueurs où on dit, voilà, ils sont au bord de la dépression parce qu'ils ne jouent pas. Donc là, on va leur demander de jouer tous les 3 jours, ce qui, pour les Anglais, n'est pas franchement nouveau, hein, puisqu'au cœur de la saison, avec l'enchaînement des compétitions, ils jouent tous les 3 jours.
Alejandro ?
Je pense qu'effectivement, comme l'a dit Philippe, c'est un nouveau championnat qui commence. Mais
et le suspense se déplace derrière Liverpool.
On a vu en Allemagne que, par exemple, dans ces championnats à huis clos, le fait de jouer à domicile ne constitue pas vraiment un avantage. C'est une donnée qui peut avoir son importance. Après, comment les équipes auront vécu ces confinements, il y a des équipes qui l'ont sûrement mieux vécu que d'autres et on trouvera peut-être des nouvelles hiérarchies qui vont se mettre en place. On ne le sait pas, mais quand on a 25 points d'avance, de toute façon, quelles que soient les données nouvelles qui peuvent intervenir, les jeux sont faits.
Rémi, est-ce que vous regarderez ce championnat anglais à huis clos ?
En tant que journaliste sportif, j'ai cette obligation. Autrement dit, comment est-ce que je viendrai édifier et discuter contre Xavier Barré ? Sauf qu'aujourd'hui, on constate une seule chose, c'est qu'en France, il y a le Paris Saint-Germain et les autres. En Angleterre, il y a Liverpool, très au-dessus. Et contrairement à ce que les Xavier Barré et autres voulaient me dire, que Pep Guardiola était le meilleur entraîneur, c'est quand même honteux d'être à 25 points de retard. C'est énormissime. Mais que Liverpool aujourd'hui soit très au-dessus, et maintenant, j'aimerais d'ailleurs qu'il y ait deux championnats, c'est-à-dire qu'un championnat où Liverpool joue seul, et peut-être avec Paris Saint-Germain, et puis un autre championnat où Pep Guardiola va jouer contre Lyon, va jouer contre Marseille, va jouer contre ceci. Vraiment, Liverpool, c'est très, très, très au-dessus. Xavier Barré, maintenant tu es convaincu, Pep Guardiola n'était pas le super entraîneur que tu croyais.
Rémi et Pep Guardiola, il faudrait écrire un livre, n'est-ce pas, Xavier? Bon, avant de passer à l'Espagne, écoutons ce refrain connu, mais qui là est en 12 langues, et je vous en dis plus. Steven Gerrard, joueur iconique de Liverpool, a eu 40 ans le 31 mai dernier. Jürgen Klopp a joué le chef d'orchestre à la baguette et il a fait chanter tout son effectif en 12 langues, qui sont les 12 langues de son effectif. Et il a fait chanter en 12 langues, eh bien, bon anniversaire à tous ces parabéns, palavosé par exemple en portugais. Il a fait chanter ça à tout le monde. En Espagne, l'Espagne, elle aussi violemment touchée avec ses 27 000 victimes. La Liga va reprendre. Alors là, le suspense demeure entier, un mano à mano. Deux points séparent le Barça et le Real. Alejandro Valente, est-ce que le Barça a déjà gagné?
Bah, pas du tout, non. C'est trop serré pour pouvoir affirmer une chose pareille. Barcelone, c'est vrai qu'il a l'habitude de gagner les Ligas, mais cette année, ça a été plus compliqué. D'ailleurs, il a perdu il y a quelques temps, juste avant l'interruption face au Real Madrid. C'était le 1er mars et il a perdu le Classico, mais il a quand même ses deux points d'avance et là, c'est tout un mystère parce que comme en Angleterre, on ne sait pas comment les équipes vont se retrouver après cet arrêt. Je pense que pour le Barça, c'était plutôt bénéfique car Barcelone avait quelques joueurs blessés, dont Luis Suarez qui aujourd'hui peut rejouer. On sentait que certains joueurs avaient souffert d'une préparation mal réalisée en début de saison. Aujourd'hui, les Messi et compagnie sont en pleine forme physique. On peut espérer que dans ces conditions, Barcelone va pouvoir conserver son avantage. Mais le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot. Donc, je pense qu'on va avoir une fin de saison tout à fait passionnante.
Je pense que Rémi n'a pas dit son dernier mot. Rémi N'Gono, le Real de Zizou avec un handicap, c'est Luka Jovic qui a son talon cassé, n'est-ce pas? Je m'en souviens, vous nous en avez parlé il y a quelques jours. Est-ce que le Real peut, on sait que c'est un peu le but de cette saison hein, pour cette équipe du Real qui collectionnait les Ligues des Champions ces derniers temps, est-ce que le Real a les armes pour dépasser le Barça?
Oui, beaucoup d'armes, et contrairement à ce que Alejandro nous fait croire que Messi a toutes les capacités physiques, aujourd'hui il a un peu la capacité de la vieillesse, et aussi il faut savoir qu'il a été laissé au repos, parce qu'il ne se sentait pas super bien. C'est vrai que le club est en train de communiquer actuellement que c'était juste par précaution, donc ce n'est plus le Messi qu'on pouvait croire qu'il est capable lui seul de pouvoir tenir aujourd'hui le Barça et gagner tout. La preuve, c'est que lorsque vous constatez que jusqu'à présent, ça se joue comme mano à mano, alors que le Real est privé, par exemple, d'un Cristiano Ronaldo qui est parti à la Juve, ça démontre aujourd'hui que... Ça démontre aujourd'hui que... c'est le Barça qui n'a plus la même puissance. Donc, le Real est capable d'aller trouver et d'aller cueillir ses titres. Je dis bien, le Real a prouvé cela pendant le Classico. Le Real a prouvé aujourd'hui qu'il a des potentialités, d'autant plus que Eden Hazard, lui aussi, revient.
Xavier, dans ce mano à mano, hein, ils ont beaucoup d'avance sur Séville, ces deux clubs, qui pourrait, selon vous, gagner ce championnat espagnol?
Pour moi, le Barça a l'avance qui donne ce surcroît de confiance. Et El Jefe l'a très bien expliqué, le retour de Luis Suarez va être le chaînon décisif parce qu'on a vu qu'en son absence, il manquait quand même quelqu'un devant. Et ce n'est pas par hasard si les Blaugrana s'emploient depuis de longues semaines à recruter un successeur à Luis Suarez parce qu'il manque un vrai avant-centre au Barça quand Luis Suarez n'est pas là. Donc là, le fait qu'il revienne à la compétition, je pense que c'est un atout qui peut être déterminant pour Barcelone. Le calendrier, en plus, est à peu près équilibré entre les deux équipes pour les journées qui restent. Donc, la petite avance qu'a le Barça, je pense qu'ils peuvent la conserver jusqu'au bout.
Et vous, Philippe Doucet, qu'en pensez-vous?
Bon, on disait tout à l'heure que c'était un nouveau championnat. Le Barça, en mars, au moment où l'arrêt s'est fait, j'aurais parié que le Real allait parvenir à être champion. J'en suis moins sûr aujourd'hui. Le Barça jouait avec 14 joueurs. Sur la feuille de match, ils avaient 14 joueurs conséquents, enfin des joueurs confirmés en tout et pour tout comme joueurs valides. Là, ils ont récupéré plusieurs joueurs. Ils ont retrouvé un effectif à peu près correct. Et on a vu, si on regarde l'expérience de l'Allemagne, les favoris gagnent beaucoup. Parce que tout d'un coup, le petit n'a plus le public qui le pousse. Il faut enchaîner souvent deux matchs par semaine. Le calendrier espagnol est complètement délirant. Ce qui a sorti la Ligue espagnole est un véritable délire, un déni pour tout syndicat de joueurs. Mais après tout, bon, voilà, circonstances exceptionnelles. Bon, voilà, c'est la réalité.
Des matchs tous les jours pour les spectateurs.
Ouais. Incroyable, incroyable. Il y a des matchs tous les jours du 11 juin au 11 juillet. Pas toutes les équipes, bien sûr, mais du 11 juin au 11 juillet, je crois. Il y a des matchs absolument tous les jours, ce qui est absolument ahurissant. C'est une performance en termes d'animation du championnat. Mais ça va être très spécial pour les joueurs. Et je pense que ça va constituer un très gros avantage pour les grosses équipes qui ont des effectifs plus importants, qui vont pouvoir récupérer plus facilement. Quand on est un peu moins, quand on enchaîne les matchs, c'est un avantage pour les gros. Et donc, je pense que ces deux équipes vont prendre beaucoup d'écart sur les autres. Et du coup, les deux petits points d'avance du Barça aujourd'hui peuvent être finalement se révéler importants. Alors que sur le moment, au mois de mars, on avait vraiment l'impression que c'était que tout le monde était sur la même ligne. Donc, petit avantage au Barça, les petits.
Ça sera en tout cas le vrai suspense de cette fin de championnat. Alejandro Valente, juste pour clore ce sujet, on a des défis qui ont été lancés ou qui peuvent être lancés à Messi. Il pourrait battre un record et faire plus de 900 matchs en tant que professionnel. Il pourrait aussi battre un record, c'est celui de Pelé et le nombre de buts marqués par un buteur, donc dans un même championnat pour une même équipe, à savoir Pelé et ses 643 buts. Il en manque 16 à Messi. C'est possible avant la fin de la Liga ?
C'est tout à fait possible. Je pense même que Messi n'a pas renoncé à son soulier d'or, alors qu'il a aujourd'hui 10 buts de retard par rapport à Robert Lewandowski, avec, je crois, 9 matchs à jouer pour le Polonais et 11 matchs à jouer pour lui. C'est le genre de défi qu'un joueur comme Messi peut apprécier. Donc, je pense qu'avec lui, tout est toujours possible. Et même, j'étais assez étonné de découvrir un Messi très philosophe à l'issue de ces confinements, parlant de la vie, d'un football qui ne sera plus jamais le même et d'une vie qui ne sera plus jamais la même.
On sent bien du temps.
Messi et c'est un vrai plaisir de le retrouver sur le terrain.
Merci pour ces mots d'admiration du Réfé pour le fameux joueur qu'est Lionel Messi. La Serie A reprendra les 13 et 14 juin. Si vous voulez en savoir plus, sur notre page Facebook, Matteo Cioffi vous explique tout. Merci beaucoup, Philippe Doucet, d'avoir participé à ce Radio Foot International.
Merci, madame Annie.
On vous retrouvera très bientôt dans une émission plus normale et dans un studio, j'espère. À bientôt, Allez. Philippe. Merci.
Et face à face, ce sera un plaisir.
Exactement. On va à nos cartons, les amis.
Carton jaune.
Un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là. Carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Au carton de la semaine, les amis, allez Rémi Ngono, puisque vous n'avez pas pu répondre sur Messi, mais je vous promets, on refera un débat à ce sujet. À qui mettez-vous un carton et de quelle couleur cette semaine ?
Carton jaune aux anciens coéquipiers de Didier Drogba en sélection. Avec tout ce que ce monsieur a fait au regard de son agent et surtout de son programme pour la Fédération ivoirienne de football, lui qui a été avec ses compagnons, qui a toujours été humble, il aurait été souhaitable, exactement comme mes collègues de Radio Foot International, qu'on me soutienne au jour où j'irai me présenter à une élection. Mais que non ! Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir des gens se dresser comme El Refé. Comme Xavier Barré, qui vont me dire que barrer la route à Rémi Ngono. C'est ce que je suis en train de voir au niveau de la Fédération ivoirienne de football actuellement. Au lieu de porter ce programme de Didier Drogba qui a été exemplaire, qui a une bonne image sur le plan international. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Ses coéquipiers sont en train de saccager son projet. Comme le dit un proverbe africain, le poisson vit dans l'eau. Mais c'est avec l'eau qu'on cuit également le poisson.
Xavier Barré.
Moi, je vais donner un carton vert, en fait, sous forme d'hommage à l'AJ Auxerre et au président Hamel, qui est décédé cette semaine. C'est un personnage assez discret, mais un personnage extrêmement efficace qui a présidé le club bourguignon pendant 50 ans. Et sous sa coupe, ce club est passé du niveau amateur à la Coupe d'Europe et même allé en Ligue des Champions. Donc, c'est un hommage a posteriori que je lui rends, hein, puisqu'il a quitté ce club, la présidence de ce club, il y a déjà une dizaine d'années maintenant. Et d'ailleurs, depuis, la GIA est descendue en deuxième division. Mais je crois que c'est assez extraordinaire de voir la vie de ce personnage qui est mort à 90 ans, qui a côtoyé l'Abbé Deschamps, dont le stade de la GIA porte le nom, lorsqu'il était enfant, et puis qui ensuite, depuis le garage, l'entreprise familiale, a apporté tout son dévouement, sa passion à ce club, sans jamais y avoir aucun intérêt financier personnel. C'est un bel exemple de dévouement pour la cause du football et pour la cause d'une ville qui n'avait pas droit de citer dans le monde du football professionnel jusqu'à ce qu'il mène la GIA vers le saut.
Alejandro Valente, quel carton, quelle couleur ?
Alors, un carton vert que je vais dédier à Rémi parce que je vois qu'il est un peu malheureux aujourd'hui. Alors, je vais lui faire plaisir, même si c'est un carton qui a un côté un peu masochiste pour moi. C'est à François Omabillic que je dédie ce carton vert, car il y a 30 ans exactement, il marquait le but le plus important de sa carrière. C'était une ouverture de la Coupe du Monde en Italie en 1990 à Milan. Il marquait un but contre l'Argentine qui permettait au Cameroun de devenir la première équipe africaine à battre en tenant du titre. Bon, le Sénégal allait récidiver quelques années plus tard, mais voilà, François Omabillic, un grand joueur, une belle carrière, et c'était le début d'une grande épopée pour les Lions Indomptables et pour un certain Roger Mila.
Magnifique, elle aurait fait ça, avec ça. Je sors le drapeau blanc pour la paix.
Radio Foot donne un carton vert à JPP, Jean-Pierre Papin, qui revient sur les terrains. Il était consultant ces derniers temps, on le voyait plutôt sur le banc des télés. Et bien là, il va être sur le banc d'un terrain. Il va être entraîneur d'une petite équipe, hein. C'est l'équipe de Chartres qui joue en National 2. C'est la quatrième division, si je me trompe pas, hein, en France. Mais en tout cas, on va retrouver JPP dans le milieu du football et qui sait peut-être grimper d'année en année pour revenir. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs. N'oubliez pas aussi sur notre page Facebook, il y a une très belle interview de Raï, le capitaine Raï, le Brésilien du Paris Saint-Germain. Et on se quitte en musique alors que les joueurs de la D1 portugaise ont un message destiné au personnel soignant sur leur maillot pour ce week-end de reprise. Eh bien, il y a le collectif 236.
Collectif 236.
La semaine dernière, on avait le 242, là c'est le 236. Le 236, c'est la République Centrafricaine, un groupe de rap Oka, et ils nous chantent, eh bien, Covid, notre combat. Merci, et à lundi, n'oubliez pas, lundi, 16h10, en temps universel. Merci à tous.
Faut aussi rester chez soi, faut pas s'embrasser, respecter les consignes. Ah, 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 ah,
ah. Baba na mama, t'es neti seigneur qui est cochoyé, si tombe la courbe la sauve.
RFI, la sélection.